Bonjour, mon nom est Jess Lafarté-Auré et je suis le coordonnateur de la chaire de recherche sur le sport responsable de l'Université de Sherbrooke. En 2023, un rapport de recherche commandé par l'Agence mondiale antidopage a été publié par une équipe de chercheurs. Le rapport s'intitule « Vulnérabilité physique et psychologique et dopage en cyclisme de haut niveau, mécanismes explicatifs explicites et implicites ». La première étude de ce projet s'intitule « Le dopage dans le cyclisme d'élite, une étude qualitative des situations de vulnérabilité sous-jacente ». Pour parler de cette étude, nous vous proposons une série de 3 épisodes lors desquels nous allons nous pencher plus particulièrement sur celle-ci avec celle qui a dirigé l'équipe de chercheurs l'ayant rédigée. L'objectif de ces épisodes est d'expliquer le rapport, ses analyses ainsi que ses conclusions. Si vous n'avez pas eu la chance d'écouter l'épisode 1 de cette série, ben je vous invite à le faire avant de poursuivre. Justement, si vous avez écouté l'épisode 1, vous savez que pour parler du rapport, je reçois Mme Karine Corion, enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Université Côte d'Azur à Nice et membre du laboratoire Motricité humaine, expertise sport-santé. Madame Karine Corion, merci d'être là.
Merci à vous.
Donc, pour commencer, pouvez-vous nous rappeler de quoi on parle exactement?
Alors, on parle du dopage dans le cyclisme d'élite. La première étude de ce projet a cherché à identifier les situations de vulnérabilité de différentes natures, physiques, psychologiques, relationnelles, contextuelles, susceptibles d'expliquer le recours à des produits dopants chez les cyclistes de haut niveau. C'est un projet de recherche financé par l'Agence mondiale antidopage.
Et pour rappel, quel était l'objectif de cette étude dans ce projet global?
Alors, elle visait plus particulièrement à étendre les connaissances existantes en explorant et en tentant de catégoriser simultanément différents types de situations de vulnérabilité qui prédisposent les cyclistes de haut niveau à se doper.
Et en quelques mots, on fait un petit retour en arrière. De quoi avons-nous parlé dans l'épisode 1?
Alors, tout d'abord, nous avons expliqué l'ensemble du projet ainsi que les premiers résultats trouvés. L'analyse nous a permis de catégoriser différentes situations de vulnérabilité chez les cyclistes, physiques, psychologiques, relationnelles, contextuelles. Ainsi, dans le premier épisode, nous avons fait le choix de parler des situations de vulnérabilité physique.
Donc, pour ce deuxième épisode, nous allons nous pencher plus particulièrement sur les situations de vulnérabilité psychologique. Suite à vos analyses, 6 sous-thèmes sont apparus. Les affects négatifs, la motivation maladaptative, les tendances au désengagement moral, le sentiment d'accomplissement réduit, le dopage en tant qu'addiction et les troubles du comportement alimentaire. Je vous propose donc d'aborder le tout en fonction des sous-thèmes, le premier étant celui qui regroupe les affects négatifs.
En effet, cette catégorie est la situation de vulnérabilité psychologique la plus récurrente chez nos 10 cyclistes de haut niveau. Les affects négatifs concernaient l'épuisement émotionnel, la fatigue mentale, la dépression, mais aussi le stress et l'anxiété. Des extraits récurrents indiquaient cela chez les 10 participants, comme l'a déclaré ce cycliste.
Vraiment, mon esprit est vraiment, vraiment embrumé. Je ne peux pas hiérarchiser vraiment les choses. Je deviens un peu très apathique. Donc oui, le dopage est l'une des stratégies.
Cette fatigue mentale a finalement atteint un point où les cyclistes ont commencé à ressentir un sentiment d'aversion envers leur sport. De plus, on a constaté que 8 des 10 participants à nos entretiens, donc les 10 cyclistes, ont connu des épisodes dépressifs, de durée et de fréquence variables, qui avaient des liens directs avec leur comportement de dopage, comme le dit cet extrait.
J'ai résisté à la tentation pendant longtemps, mais un jour, avec la tentation tout le temps, eh bien, c'est difficile de résister. Et puis un jour, oui, précisément dans ces bas émotionnelles, dans ces grandes déceptions, eh bien, nous cédons. On craque, on décide d'essayer.
Par ailleurs, 6 participants ont eu recours également au dopage pour faire face aux phases d'anxiété et de stress, comme le décrivent ces 2 cyclistes.
Eh bien, là, je me suis dopé. Je ne sais pas, je n'arrive pas à gérer mon stress.
Ou un autre.
Certains étaient tellement plus talentueux que moi que j'étais vraiment terrifiée à l'idée de ne pas être à la hauteur, à leur niveau. Et comme c'était un résultat d'équipe, vous savez, je me considérais comme responsable du résultat, comme le maillon le plus faible de la chaîne. Ça m'a vraiment stressée, vous savez.
Le second sous-thème identifié est la motivation maladaptative, qui se caractérisait comme le fait de gagner à tout prix, d'avoir une motivation contrôlée, la peur de l'échec et même l'auto-sabotage.
En effet, les résultats ont mis en évidence une poursuite prononcée de la victoire lors des entretiens. Et elle a caractérisé les 10 participants cyclistes. Par exemple, nous pouvons citer cet extrait pour illustrer la recherche du succès, la volonté d'être le meilleur. Les cyclistes ont déclaré :
J'ai toujours essayé d'avoir un haut niveau dans tout ce que je faisais. Ça devait être mon côté compétitif. Je ne sais pas. J'aimais ça. J'aimais être le meilleur dans ce que je faisais.
Ou un autre.
J'aime la compétition. J'aime être le meilleur.
Ainsi, 7 cyclistes ont déclaré avoir été guidés par une motivation contrôlée, dépendante finalement de facteurs externes, à certains moments particulièrement caractérisée par un stress financier qui a généré le besoin d'obtenir des résultats, comme le montre cet extrait.
J'ai en quelque sorte perdu la joie de participer à des courses professionnelles en raison du stress financier et de la pression de justifier ma participation continue dans le sport auprès de mes proches.
Ou alors, cet extrait.
Je vais ramener cela à l'argent. Cela vous apportera le succès. Je pense que je... Ce n'est pas ce que je pense, j'en suis certaine. J'ai tellement vécu dans la pauvreté que je voulais surtout éviter cela et offrir une vie différente à mes enfants.
Ensuite, 7 cyclistes sur 10 ont également, dans une moindre mesure, exprimé une peur de l'échec, caractérisée par la peur de stagner ou pire, de régresser, ainsi que d'être à l'arrière du peloton, comme nous pouvons l'illustrer par cet extrait suivant.
Eh bien, je pense que la plupart des bons athlètes ont cette inquiétude, cette anxiété, ou cette peur de ne pas décevoir. De ne pas se décevoir.
Ou alors?
Je ne supporte pas d'être mauvais. Ce n'est pas possible.
Enfin, dans ce sous-thème « La motivation mal adaptative », il ressort de 3 entretiens que le dopage permet aux cyclistes de se livrer à une forme d'auto-sabotage, espérant presque implicitement qu'un contrôle positif mettrait fin au calvaire qu'ils subissaient en tant que cyclistes.
Et puis, au bout de 2 ou 3 jours, je me suis dit « Allez, qu'est-ce que tu as à perdre à la fin ?» Je me suis dit « Au pire, tu pourrais te faire prendre, d'une certaine manière. Eh bien, ton année est finie. Et avec lui, il arrêtera de te soumettre à ce qu'il te fait subir. »
Très intéressant. Et une tendance au désengagement moral, un autre sous-thème, a été très fréquemment rapporté par les cyclistes lors des entretiens.
En effet, plusieurs mécanismes de désengagement moral ont été utilisés, tels qu'on l'entend dans la littérature, y compris l'utilisation presque systématique d'euphémismes pour désigner le dopage.
À l'époque, on n'appelait pas ça du dopage. On appelait ça de la préparation.
Ou encore, un autre mécanisme de désengagement moral, la diffusion des responsabilités.
Parce que, du moins à l'époque, je ne sais pas si la cortisone était autorisée ou non, mais tout le monde en prenait quand même. C'est la première chose. Et j'ai commencé à l'utiliser, non parce qu'on me l'avait recommandé, mais parce que d'autres le faisaient.
Mais aussi, le mécanisme de désengagement moral, le déplacement des responsabilités, par exemple, le recours des athlètes au dopage en raison de pressions exercées par leur entourage, comme le montre cet extrait suivant.
Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas si c'était une sorte de produit dopant ou s'il allait me donner des vitamines ou du fer. Pour vous dire la vérité, j'essayais tellement fort de ne pas regarder ce que c'était. J'ai juste fait ce qu'on m'a dit de faire. Et c'était tout.
Enfin, un dernier mécanisme de désengagement moral, la minimisation des conséquences, réduisant les dommages causés et ou les effets potentiels de substances dopantes consommées. Par exemple?
Oui. Eh bien, j'ai utilisé de l'EPO. Mais c'était juste, disons, je n'en ai pas eu. Ce n'était pas plusieurs fois.
Un autre sous-thème est celui du sentiment d'accomplissement réduit. Qu'en est-il?
Oui, 7 cyclistes sur 10 ont connu un sentiment d'accomplissement réduit par moment, comme le précise un cycliste qui nous confie ceci.
Beaucoup de frustration parce que j'ai été lâchée du peloton. Je n'étais pas bien placée. Je me sentais mal, etc.
Ou celui-ci.
Ensuite, vous vous retrouvez à être largué du peloton et tout ça, vous savez. Votre morale s'effondre encore plus et cela vous tire encore plus vers le bas. Et vous cherchez à vous doper.
Dans une proportion moindre, Karine Corion, certains cyclistes ont décrit comment leur comportement de dopage a pris une forme de dépendance.
Oui, et comment la dépendance les a rendus finalement encore plus vulnérables au dopage, à la recherche de nouvelles substances et ou à l'augmentation des doses. Par exemple, un sportif a déclaré.
Je veux dire, d'abord, j'ai dû arrêter de consommer de la drogue parce qu'il s'agissait de drogue, pas de dopage, même si c'est lié à cause de ces amphétamines et de ces fameux pots belges.
Cette addiction était soit inhérente à la nature addictive de la substance elle-même, comme par exemple...
Et puis, quand j'ai déraillé à la fin, je suis devenu un toxicomane ou un mec qui est extrêmement dopé. Je n'étais plus un cycliste.
Et soit, d'un autre côté, au besoin insatiable de maintenir finalement un niveau de performance amélioré, facilité par les substances.
Parce que le dopage, ça fait... Psychologiquement, vous devenez dépendant. Psychologiquement, on devient dépendant du dopage. Cela signifie que dans votre tête, vous vous dites « Je ne peux plus faire de vélo en buvant de l'eau claire. C'est fini. »
Un dernier sous-thème pour les situations de vulnérabilité psychologique montre des périodes plus ou moins longues de troubles alimentaires observées chez 6 participants.
Oui, cela a été caractérisé par une hypermaîtrise et la poursuite d'une perte de poids pour un meilleur rapport puissance-poids. Par exemple, l'extrait suivant nous le montre.
Oui, eh bien, en termes de poids, en tant qu'individu, il a toujours été, eh bien, comme tous les cyclistes, donc, ça a toujours été une bataille constante pour maintenir un poids bas, parce que c'est une caractéristique, c'est une donnée qui est assez importante pour la performance.
Ou alors, cet extrait?
Puis, je suis revenue. C'était un déjeuner léger qui n'était jamais suffisant pour moi, et je ne mangeais pas assez. J'ai traversé des périodes d'anorexie, mais je pense que c'était parce que c'était la seule chose que je pouvais contrôler.
Donc, Karine Corion, si nous faisons le point sur les résultats des situations de vulnérabilité psychologique, qu'en est-il?
Oui, on constate que la transition vers le dopage était souvent caractérisée par des affects négatifs, comme de la fatigue mentale, de la détresse et une perte d'enthousiasme, comme cela a été déjà précisé dans la littérature scientifique. Les sportifs ont déclaré avoir du mal à rester concentrés, ils se sentaient épuisés, non seulement physiquement, mais aussi mentalement, ce qui affectait leur clarté de pensée sur de longues périodes et par conséquence, leur performance. Bien qu'ils aient généralement une perception élevée de compétences, bon nombre d'entre eux ont connu des périodes de faible accomplissement, ayant le sentiment que quoi qu'ils fassent, ils échoueraient. Ces épisodes faisaient suite souvent à une série d'échecs en matière de performance et d'objectifs, comme l'a déjà remarqué la littérature. Le dopage est alors considéré comme nécessaire pour atteindre leur objectif. Certains d'entre eux ont poursuivi dans cet état d'épuisement, et beaucoup en sont venus à ressentir un sentiment de dégoût envers le cyclisme, ainsi qu'un désir de faire autre chose.
En plus, vous avez observé chez les cyclistes de votre échantillon que plus de la moitié des sportifs ont connu des périodes de stress, d'anxiété, des états dépressifs qui les ont conduits au dopage.
Oui, tout à fait. Par ailleurs, ce qui est intéressant de noter également, c'est que le dopage est considéré davantage comme un acte de désespoir ou une simple stratégie d'adaptation plutôt que comme une tricherie pure et simple, comme le suggère principalement la littérature existante. Notre étude confirme également la littérature à propos de la prévalence des troubles du comportement alimentaire chez ces sportives motivées par la recherche d'un poids plus faible, d'un rapport puissance-poids plus optimal et peut-être plus important encore, d'un besoin d'hypercontrôle extensible à d'autres aspects de leur vie. Par ailleurs, ce travail de recherche met en lumière de nouveaux aspects des situations de vulnérabilité psychologique, notamment en soulignant le rôle d'une motivation inadaptée, caractérisée par un contrôle excessif. Les processus motivationnels sous-jacents qui conduisent les sportifs à adopter des comportements de dopage est primordial. Par conséquent, les cyclistes peuvent être intrinsèquement motivés avec des risques initiaux spécifiques et motivés par la poursuite de la victoire à tout prix, atteignant des niveaux d'élite. Chez ces sportifs, certaines situations de vulnérabilité compromettant leur objectif peuvent servir de déclencheur du dopage.
Enfin, le comportement dopant des participants conduisait parfois à une dépendance, soit inhérente à la nature addictive de la substance elle-même, soit à ce besoin d'être performant.
Tout à fait. Dans certains cas, le comportement de dopage était motivé par une forme d'auto-sabotage de carrière comme mécanisme d'adaptation. Ce mécanisme s'est manifesté par une divulgation prématuré ou révélé du dopage, mettant ainsi fin à l'épreuve qu'ils endurent. Ce phénomène représentait la situation insupportable dans laquelle ils se trouvaient avant de s'engager dans un comportement de dopage. Pour conclure, lorsqu'on considère finalement collectivement les situations de vulnérabilité physique et psychologique que nous avons vues dans l'épisode 1 et 2, nos résultats ont révélé que le sportif était plus vulnérable au dopage dans des situations caractérisées par un épuisement physique, émotionnel et cognitif, ainsi qu'une diminution du sentiment d'accomplissement envers son sport, le cyclisme. Ces conditions ont souvent culminé lorsqu'elles ont été associées à des sentiments négatifs envers leur sport et même à un dégoût pour celui-ci. Ces différentes catégories, épuisement physique, émotionnel, cognitif, ainsi qu'une diminution du sentiment d'accomplissement, rejoignent les dimensions du burn-out des sportifs telles que décrites par les recherches les plus récentes et les définitions contemporaines de ce syndrome, bien connu dans le domaine du sport.
Merci beaucoup, Madame Karine Corion. Je rappelle que vous êtes enseignante-chercheure et maître de conférence à l'Université Côte d'Azur et coordinateur du rapport de recherche qui nous intéresse. Il s'intitule « Vulnérabilité physique et psychologique et dopage en cyclisme de haut niveau, mécanismes explicatifs explicites et implicites ». Dans le prochain épisode, qu'en est-il des situations de vulnérabilité relationnelle et contextuelle? Alors, vous aviez des remerciements?
Oui, tout à fait. Je remercie notre doctorante, Valentine Filleul, associée à ce projet, et la co-directrice de thèse avec moi, Fabienne Dary-Plongueville, mais également les chercheurs associés. Stéphanie Mériot de l'Université Côte d'Azur, Denis Haut de l'Université de Lausanne, en Suisse, David Pavot de la chaire de recherche sur le sport responsable de l'Université de Sherbrooke, Canada, mais également les experts de terrain, avec Éric Ménadier et Jackie Maillot de la Fédération française de cyclisme et Louis Barbeau de la Fédération québécoise de sport cycliste.
Merci, et pour en savoir plus, nous vous invitons justement à consulter les plateformes numériques de l'Agence mondiale antidopage et du laboratoire Motricité humaine Expertise Sport Santé de l'Université Côte d'Azur. Restez avec nous pour le troisième et dernier épisode.